17, 17, qu'est-ce que je fais là, moi? 21 juillet 2017, voilà, aime l'été. Aime l'été, et vous l'entendez, non, ce n'est pas Clotilde de Seille qui sera avec vous au cours de la prochaine heure, mais bien François Brodeur, son remplaçant attitré pour les vendredis de ses vacances, qu'elle prend par petits bouts. Une émission pleine comme un œuf à vous proposer aujourd'hui. On vous parle d'un projet pilote qui veut éviter la rue aux personnes souffrant de santé mentale. On vous parle d'un camp de jour à Magog pour les jeunes qui ont, eux, à vivre avec un handicap. En entrevue, le Bétémia, la société qui fabrique un extraordinaire dermosquelette. On parlera également avec Agathe Tupula-Kabola des compétences préscolaires. On parle à Michel Bédard, producteur et animateur de l'émission Les Capés, un collègue qui essaie ou qui est actuellement sur un grand voilier à Québec malgré toutes les difficultés qu'on peut imaginer à embarquer lorsqu'on est en fauteuil roulant. Et au téléphone également, les autres créatifs des autistes qui viennent nous dire que l'autisme, c'est pas une maladie, c'est une condition et une manière d'être tout à fait légitime. Mais tout ça, ça commence dans quelques instants. Allez, immédiatement, on passe aux pages du Devoir où Isabelle Porter signait à Québec aujourd'hui un texte intitulé « Des personnes souffrant de maladies mentales évitent la rue grâce à un projet pilote à Québec ». Au Québec, on estime qu'environ 10% des gens ayant accès à un logement social finissent par se faire expulser, aboutissent dans la rue et voient leurs problèmes se détériorer. Véritable zone grise, leur réalité est au cœur d'un nouveau projet pilote qui suscite beaucoup d'espoir. Notre but, c'est de sortir les gens de la rue, pas de les y envoyer, résume Mario Bousquet du programme Clé en main de l'organisme PECH, le PECH, qui vient en aide aux personnes avec des problèmes de santé mentale. Considérés comme des cas à problème, ces personnes comptent pour 10% des détenteurs de logements sociaux, mais mobilisent 90% des énergies du personnel des services sociaux. Trop souvent sans succès, jusqu'à l'expulsion. Pour mieux comprendre leur réalité, Clé en main a suivi pendant plusieurs mois 20 personnes qui avaient épuisé les seuils de tolérance des propriétaires et des voisins et étaient sur le point de perdre leur appartement. Un homme sourd avec de sérieux problèmes à communiquer ne payait pas son loyer. Un orphelin Duplessis dérangeait ses voisins lorsqu'il buvait trop. Une dame souffrant du syndrome de Diogène laissait l'état de son appartement se dégrader. Derrière ces histoires, l'équipe de Clé en main a découvert des besoins complexes que le filet social ne parvenait pas à soutenir. Et il y a des gens qui n'avaient plus accès aux services, on les avait oubliés ou ils étaient sur des listes d'attente, explique Mario Bousquet. Dans un cas, la personne n'avait pas de diagnostic pour un problème de santé mentale, alors que ça prend un diagnostic pour avoir des services. Le problème, c'est que pour avoir un diagnostic, il faut voir un psychiatre, mais souvent le psychiatre n'est pas disponible avant 6 mois. Et en 6 mois, tu as le temps de perdre ton logement. Or, le logement social est habituellement un dernier recours. Alors, quand on le perd, les options sont nulles. Une expulsion a des conséquences à long terme, explique Geoffrey Lin, lui aussi de Clé en main, puisque après une expulsion, les gens doivent attendre 5 ans avant de faire une nouvelle demande de logement social, sans compter les 2 ans moyens d'attente avant d'en obtenir un. Clé en main a donc créé un poste d'accompagnateur de maintien en logement, un AML. Son rôle est de cibler ses besoins, de comprendre pourquoi, soudainement, il n'est plus adéquat dans son logement. Est-ce qu'il y a eu un décès dans la famille? Il a recommencé à consommer? L'accompagnateur joue un rôle, en outre, de tampon, en attendant que la personne accède à d'autres services. À défaut de cela, les situations dérapent, explique Geoffroy Lin. Le système est très bien pour 90% des gens, dit-il, mais pour les autres, il est trop rigide. ça prend une équipe flexible. On ne peut pas travailler du lundi au vendredi de 9h à 17h. Il faut travailler des fois les fins de semaine, le soir, le matin. Le réseau n'est pas aussi souple que ça, ajoute M. Bousquet. Le projet pilote vise aussi à contrer le travail en silo. Dès lors, ces derniers mois, des représentants du réseau, des infirmiers, des travailleurs sociaux, se réunissaient régulièrement pour échanger de l'information sur les 20 cas et dégager des pistes de solutions. Au terme de l'exercice, personne n'a été expulsé. 5 personnes ont été réintégrées au système de santé, 3 ont reçu un diagnostic, 5 ont évité de nouveaux démêlés judiciaires, etc. Depuis, Clé en main reçoit de plus en plus de demandes d'accompagnement. L'équipe veut donc passer à une prochaine étape et créer une équipe de 4 accompagnateurs pour répondre à l'ensemble des besoins. Clé en main a fait une demande de financement de 240 000 $ sur 3 ans au Centre intégré de santé et de services sociaux, le CIUS. Au CIUS, on indique que la demande est toujours à l'étude. À cet égard, M. Bousquet plaide que ça coûtera beaucoup moins cher que de venir en aide plus tard à des personnes qui sont passées par la rue. Dans le cadre du projet pilote, l'accompagnement d'une personne coûterait 8 500 $ par an, alors que le programme fédéral pour réintégrer en logement des personnes ayant vécu l'itinérance nécessite plus de 40 000 $ par an. On se déplace à Magog pour lire un texte de Charles-Antoine Rondeau publié dans Le Reflet du Lac, un site Internet, Endroit, un camp de jour d'ici qui inspire d'autres municipalités. Le camp de jour estival pour jeunes ayant des incapacités à Magog, dont l'organisme Endroit, HAN, et gestionnaire, est un bon exemple d'inclusion sociale. Depuis 14 ans, des adolescents de 13 à 21 ans de l'EAMRC de Memphrémagog bénéficient d'un camp spécialement adapté à leurs besoins. La directrice de Endroit, Gaëtane Lacroix, indique que le comité organisateur du camp, composé de représentants de l'organisme de la ville de Magog et du CIUS de l'Estrie, CHUS, travaille tout au long de l'année à réunir les sommes nécessaires pour offrir ce camp de jour et ce au même tarif que pour les jeunes du camp régulier de la ville de Magog, les clubs été. Depuis ses débuts, le projet est basé sur le principe de l'équité. Les parents paient donc 145 $ alors qu'il en coûte en réalité plus de 3 000 $. C'est possible grâce à la concertation et le soutien du milieu, laisse-t-elle entendre. Cette dernière fait aussi valoir qu'en plus de permettre aux jeunes de s'épanouir et de maintenir les acquis réalisés durant l'année scolaire, le camp de jour permet aux parents de souffler un peu. Certains vivent avec diverses incapacités physiques, intellectuelles ou encore du trouble du spectre de l'autisme, des conditions qui demandent aux parents une présence et un engagement exceptionnel. Ces services leur permettent donc de prendre un répit indispensable, de poursuivre Mme Lacroix. Tout de suite, on rejoint en ligne M. Nathaniel Tsozo et Paul Deblois qui sont chez Bétémia et qui sont aussi à Saint-Augustin-des-Morts. On va les situer géographiquement. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Vous allez bien?
Absolument, et vous?
Bien, merci.
Oui, ça va très bien, merci. Écoutez, je suis très heureux de vous parler parce que j'ai exploré votre site Internet de manière approfondie. Je voyais que Bétémia fabrique un extraordinaire dermosquelette. Expliquez-nous un peu c'est quoi un dermosquelette.
Un dermosquelette, essentiellement, c'est un peu comme un exosquelette que les gens peuvent s'imaginer. C'est un appareil d'assistance à la démarche.
Mm-hmm.
Donc, c'est composé de 2 moteurs aux genoux qui assistent la démarche, une structure orthétique, donc comme une orthèse, une ceinture qui tient le tout sur le corps, une batterie.
OK. Et ça pèse environ combien, pour me donner une idée du poids de l'engin?
C'est à peu près 15 livres, okay. Quand on prend la batterie aussi.
Mm-hmm. Pour une autonomie de?
Autonomie, c'est un peu comme le cellulaire, ça dépend de l'utilisation. Une marche rapide et continue, on dit à peu près 45 minutes, 1 heure. On a des personnes qui l'ont porté facilement pendant 8 heures. Une journée de bureau en s'assoyant, l'éteignant une partie de la journée quand ils sont assis, l'allumant pour se lever et aller manger.
Et on peut, est-ce qu'on peut imaginer des gens qui auraient, par exemple, plusieurs batteries pour pouvoir les changer en cours de route?
L'appareil vient avec deux batteries par défaut. Donc, la personne a une batterie qu'elle peut utiliser pendant que la deuxième se recharge. Le temps de charge est assez rapide aussi. Donc, en temps normal, la première batterie n'a pas fini d'être vidée. La batterie n'a pas fini d'être vidée que l'autre est déjà chargée.
OK. Et si je comprends bien le fonctionnement de cet appareil-là, ce sont des gens qui ont finalement des capacités soit articulatoires aux genoux, soit musculaires déficientes, et ce sont leurs impulsions, c'est-à-dire le début d'un geste qui provoque finalement la mise en marche puis l'élaboration d'un geste complet.
Oui, exact. L'appareil assiste le mouvement initié par l'usager. Et comme vous avez dit, les usagers, c'est toutes des personnes qui ont des capacités diminuées par de mobilité diminuées par des accidents ou des blessures ou des maladies, sclérose en plaques, arthrose du genou. Il y en a plusieurs.
Je réalise qu'on n'a toujours pas nommé l'appareil, alors que c'est une grosse faute de ma part, j'ai honte. Il s'appelle le Kyogo, je le prononce correctement?
Exactement, oui, le Kyogo. Ça veut dire keep on going. Alors, ça veut dire on continue d'avancer, on va plus loin. C'est ce que ça veut dire.
Et les résultats sont impressionnants. Je voyais entre autres sur une vidéo quelqu'un qui carrément se mettait à dribbler avec un ballon de soccer entre les pieds.
Oui.
C'est quand même. Puis là, on parle de monter des escaliers, éventuellement de faire de la randonnée en montagne. C'est quand même très, très, très impressionnant.
Effectivement. Les gens peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent avec l'appareil dans des activités avec lesquelles ils sont relativement habitués. Alors, on ne va pas recommander à quelqu'un de commencer à faire un sport qu'il n'a jamais fait dans le passé. C'est donc la personne qui avait l'habitude, par exemple, de faire des marches en montagne, puis qui, à cause de son invalidité, à cause de sa maladie, a cessé d'en faire, mais normalement, la personne va être capable de recommencer à faire ce genre d'activité-là. On a certaines personnes qui vont faire du vélo, mais c'est pas nécessairement recommandé pour la personne qui n'avait pas fait de vélo depuis 20 ans. Alors, il faut vraiment faire attention au type d'activité plus sportive, mais dans la vie de tous les jours, la majorité des gens qui ont une maladie dégénérative, ça fait longtemps là, qu'ils n'ont pas fait de sport. Alors, ils sont très heureux de pouvoir marcher, aller prendre une marche dans un beau parc, jardiner autour de leur maison, danser avec leur mari, faire leur épicerie debout plutôt qu'en fauteuil roulant. Ça, je dirais que c'est la grande majorité de nos clients, c'est ce qu'ils trouvent de plus extraordinaire, c'est l'autonomie réelle que ça leur redonne dans la vie de tous les jours. C'est sûr qu'après ça, il y a des gens qui font des choses plus spectaculaires, je dirais, mais c'est pas la majorité.
Est-ce que l'adaptation à l'appareil, parce que c'est quand même une orthèse, il faut l'ajuster, c'est pas quelque chose qu'on installe comme ça, est-ce que c'est très long?
C'est assez rapide. Le processus d'adaptation, d'habitude, prend dans les minutes, la première heure. Quelqu'un va porter l'appareil pour la première fois. À l'intérieur d'une heure, il saura marcher, il saura se lever, s'asseoir, s'accroupir, mettre un genou par terre, monter, descendre des escaliers. Et l'habituation se fait évidemment au cours des journées suivantes. Donc, au fur et à mesure que la personne porte l'appareil, elle devient de plus en plus apte, de plus en plus habile.
OK. Est-ce qu'il y a une intervention professionnelle pour installer l'appareil, l'ajuster? Est-ce qu'on parle de
Oui,
kinésiologue ou de...
effectivement. Alors, nous, on a une équipe de kinésiologues et on forme aussi d'autres cliniciens qui sont intéressés à offrir l'appareil. Donc, ça prend un kinésiologue au minimum ou un physiothérapeute pour bien comprendre les problèmes de mobilité de la personne et ajuster l'appareil en conséquence. Parce que l'appareil s'ajuste au niveau mécanique, premièrement, alors au niveau de la taille de l'individu. Mais également dans un logiciel pour s'assurer que, par exemple, si le côté gauche est plus faible, bien qu'on va donner plus d'assistance sur la gauche, ou s'il y a plus besoin d'assistance en extension du genou ou en contraction. Bon, alors selon les différents mouvements, il y a un logiciel qui permet d'adapter l'appareil exactement aux besoins de l'individu. Alors, ça prend vraiment un clinicien bien formé et certifié par BTMIA pour pouvoir ajuster l'appareil.
Et c'est aussi cette intelligence artificielle-là qui est le propre de l'appareil de Bethemia, l'aspect que vous avez breveté, qui vous appartient et qui finalement est une première. Vous n'avez pas de compétiteurs à travers le monde encore.
Non, exactement. En fait, l'appareil au complet est breveté comme étant le dermosquelette. Mm-hmm. Et le logiciel comme tel est davantage un secret industriel. Vous savez, les logiciels, ouais. Quand on doit breveter, on doit ouvrir notre jeu. Alors, vous comprenez qu'au niveau logiciel, c'est toujours un peu plus délicat. Mm-hmm. Mais effectivement, comparativement à ce qui existe présentement sur le marché, les autres exosquelettes qui existent sont plutôt des robots marcheurs, c'est-à-dire que c'est une orthèse qui va faire un mouvement prédéterminé. Alors, c'est porté par des gens qui sont
qui
totalement paralysés.
Écoutez, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je suis désolé de vous interrompre, mais Bethemia, ce n'est pas encore une petite et moyenne multinationale. Ça va peut-être le devenir avec le temps.
On a des grandes ambitions, oui.
On parle de combien pour cet appareil-là?
De 45 000 $ à l'achat et de 1 200 $ par mois en location.
Oh, et vous en fabriquez combien par année?
C'est une information qu'on ne divulgue pas en ce moment. On est une entreprise privée, mais disons que présentement, au Canada, il y en a une cinquantaine en utilisation régulière.
OK. Ben, pour beaucoup de gens, effectivement, ça peut être une alternative, une nouvelle façon de retrouver sa mobilité et sa vie. Mm-hmm. Écoutez, Monsieur Tsozo, Madame Deblois, je vous remercie énormément d'avoir été avec nous. C'est malheureusement tout le temps dont on disposait. Je vais vous souhaiter bonne chance. Je souhaite aussi que votre production de masse commence et qu'éventuellement les économies d'échelle permettent à tous de s'en prévaloir.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Immédiatement, Agathe Tupula-Kabola. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ça va très bien vous-même.
Merci, ça va très bien pour moi aussi. Écoutez, on parle aujourd'hui des compétences préscolaires. Évidemment, Le rendez-vous avec l'écrit, savoir lire, savoir écrire, c'est la clé de tout ce qui va conditionner la réussite scolaire. C'est pas aussi évident que ça, mais il y a des choses à faire avant la scolarisation.
Tout à fait. En fait, c'est qu'il y a peu de gens qui savent que même à l'âge préscolaire, même quand l'enfant est en bas âge, il y a déjà des indices qui peuvent nous amener à soupçonner que l'enfant aura plus tard des difficultés à apprendre à lire et à écrire. Par exemple, si on voit qu'il y a un enfant qui a de la difficulté à évoquer rapidement un mot, évoquer des couleurs, donc un enfant pour qui l'apprentissage des couleurs va être laborieux vers 3 ans, mm-hmm. ou qui aura du mal à dire le nom d'un animal sur demande, un enfant qui a des capacités d'attention, concentration limitées pour son âge, qui a du mal, par exemple, à se concentrer sur une histoire qu'on lui lit, à se souvenir des idées principales. On peut penser également à des difficultés qui persistent au niveau du langage oral. Donc, un enfant qui a un faible vocabulaire, qui a de la difficulté à formuler des phrases adéquates pour son âge, donc à nommer des objets ou des personnes, ou encore un enfant qui a de la difficulté à dire si deux mots riment vers l'âge de 5 ans, à compter le nombre de syllabes dans un mot. Tout ça, c'est des indices qui peuvent nous faire penser que lorsqu'il va apprendre à lire et à écrire, il pourrait avoir des embûches.
OK. C'est dans le processus mental de l'enfant, finalement, la notion du mot qui recoupe une réalité, le lien n'est pas fait.
C'est ça, par exemple, dans certains cas. Donc, okay. Des fois, l'enfant va connaître le concept, il va savoir le mot, mais quand il va vouloir dire le mot, il va avoir de la difficulté à y accéder, ce qu'on appelle souvent avoir le mot sur le bout de la langue. Mm-hmm. Donc, c'est ce qu'on appelle des difficultés d'accès lexical en orthophonie.
Ça arrive très, très, très fréquemment aux animateurs aussi, je vous rassure. Mais quelles sont les habiletés qu'on peut développer à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait quand on réalise que son enfant ne peut pas nommer de couleur ou ne se rappelle pas de l'histoire qu'on vient de lui lire?
Bien, quand on soupçonne des difficultés qui touchent le langage chez notre enfant, première des choses, je dirais, c'est de ne pas hésiter à consulter. Donc, le professionnel qui peut évaluer et traiter les troubles du langage, de la parole, de la communication, c'est l'orthophoniste. Mm-hmm. Donc, on peut se référer au CLSC ou à l'hôpital de notre quartier pour avoir une référence et voir un orthophoniste ou encore aller sur le site de l'Ordre des orthophonistes de l'Audiologie du Québec. Puis, en tant que parent, il y a également des choses qu'on peut stimuler à la maison. Par exemple, un enfant, avant même d'aller à l'école, s'il est exposé à la lecture sur une base régulière, si on lui lit souvent des livres et qu'on lui montre à notre enfant que lire, c'est plaisant, c'est une activité qui est agréable, bien, on va amener notre enfant à développer un intérêt face à l'écrit. Et ça, c'est une des habiletés au préscolaire qui va le mieux prédire le succès plus tard des enfants au niveau de la lecture et de l'écriture. Si l'enfant a du plaisir à lire, il va lire plus souvent. En lisant plus souvent, il va développer son vocabulaire. Puis la compétence est centrale à l'intérêt. Mm-hmm. On peut penser aussi à la connaissance alphabétique. Donc, c'est la connaissance du nom des lettres de l'alphabet, pouvoir nommer, reconnaître leur forme.
Le bon vieil abécédaire là, qu'on avait quand on était petit. Là,
oui. Oui. Exactement. Donc ça, c'est en fait la compétence préscolaire qui est la plus associée à la réussite en lecture à 7 ans. Puis, pour vous donner un repère, là, je vous dirais que vers la fin de la maternelle, on s'attend à ce qu'un enfant connaisse en moyenne 15 à 17 lettres. Donc, pas nécessairement toutes les lettres de l'alphabet, mais une quinzaine en majuscules et en minuscules.
Mm-hmm.
Une autre habileté qu'on va vérifier, c'est la calligraphie. Donc, ça, c'est la capacité à pouvoir retrouver la lettre qu'on veut écrire, à l'écrire de façon automatique et lisible. Mm-hmm. Donc, c'est un peu comme la parole de l'écrit, si on veut.
Mais là, j'ai un contre-exemple. La plupart des médecins savent pas absolument pas écrire.
C'est un excellent contre-exemple que vous me donnez. Et je dirais que des fois aussi, avec l'âge adulte, on va écrire de moins en moins de façon lisible. Mm-hmm. J'en suis moi-même un exemple.
Oui, c'est assez dramatique dans mon cas aussi.
Oui.
On parlait d'orthophoniste puis d'intervention professionnelle tout à l'heure. Je ne peux pas m'empêcher de poser la question parce qu'il y a quand même des coûts qui sont générés par ces interventions-là. Est-ce que ces coûts-là peuvent être assumés par des tiers ou est-ce que c'est nécessairement une relation client à professionnel?
Mais en fait, quand on consulte en orthophonie dans le système public de santé ou d'éducation, c'est des frais qui sont assumés par l'État. Donc, par exemple, si on va au CLSC, à l'hôpital ou plus tard, quand l'enfant sera scolarisé à son école, ça, c'est des services que, pour lesquels les parents n'ont pas à payer de coûts en tant que tel.
Mais il faut être référé, donc passer par le système, être admis, éventuellement être mis sur une liste d'attente.
Exactement.
L'enfant a le temps de rater son secondaire, des fois, là.
Ben c'est ça, exactement. On ne va pas se le cacher. Les listes d'attente sont longues et ça ne va pas en s'améliorant, malheureusement. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de familles qui se dirigent vers le privé pour obtenir des services. Mm-hmm. Dans le cas où on consulte en privé, on peut vérifier si le service d'orthophonie est couvert par notre compagnie d'assurance. Mm-hmm. Et si les parents n'ont pas de régime d'assurance avec leur employeur ou de compagnie d'assurance privée, à ce moment-là, il existe certains programmes de subvention auxquels les familles peuvent être éligibles. On peut penser notamment à la subvention du choix du président, donc qui offre des montants d'argent aux familles moyennant certains critères, certains seuils de revenus, etc. On peut penser à Noël au printemps, qui est également un organisme qui offre des subventions aux familles quand l'enfant a eu un diagnostic. Puis, on peut penser également à certains régimes gouvernementaux, par exemple le supplément pour enfants handicapés, accordé par la Régie des rentes du Québec, ou encore intégration d'un enfant handicapé en service de garde, qui, ce programme-là, permet d'avoir des services au sein même du groupe d'appartenance de l'enfant en garderie. Donc, ça peut quand même être intéressant de se renseigner pour savoir si on peut, si on correspond à ces programmes-là, si on peut y être éligible.
Ouais. Et dans tous les cas de figure, avant d'aborder le curatif, il y a sûrement une étape diagnostique, c'est-à-dire on va élaborer s'il y a un problème avant d'essayer de le corriger. Et cette étape-là, ce n'est pas nécessairement très long ou très dispendieux.
Non, généralement, pour un enfant d'âge préscolaire, ça va prendre de 2 à 3 rencontres pour compléter une évaluation. Puis par la suite, là, on explique les résultats aux parents, on produit un rapport avec des recommandations, puis un plan d'intervention très ciblé et personnalisé pour l'enfant.
Mm-hmm. Alors, dans tous les cas de figure, vérifiez ces polices d'assurance, autant au bureau qu'éventuellement toutes celles que vous pouvez, dont vous pouvez disposer. Si vous avez un médecin de famille, c'est l'idéal, avoir une référence?
Oui, exactement. En fait, c'est essentiel, une référence médicale avant l'âge scolaire pour aller en CLSC ou en centre de réadaptation en milieu hospitalier. Il faut une référence médicale au public.
OK. Et vous conseilleriez quoi aux parents qui ont juste des doutes, des questions? Est-ce qu'il y a des ressources rapides, là?
Le parent qui s'inquiète pour son enfant peut consulter un document facilement accessible sur Internet qui s'appelle « Je grandis, je communique », disponible sur le site de l'Ordre des orthophonistes audiologistes du Québec. Ça donne des repères développementaux entre 0 et 5 ans, à quoi on doit s'attendre, à ce que notre enfant puisse comprendre et exprimer au niveau de la communication. On peut également vérifier, auprès de notre médecin, parler de nos questions, de nos doutes, nos questionnements auprès du médecin d'abord. Puis également, je vous dirais qu'il y a différents trucs et astuces qui sont disponibles pour stimuler le langage sur l'Internet.
OK. Madame Tupula-Cabola, je dois vous interrompre parce que c'est malheureusement tout le temps dont on dispose.
Ah, d'accord.
Et je vous remercie infiniment. J'invite nos auditeurs à se diriger donc sur Internet pour plus d'informations. Merci.
Parfait, je vous remercie. Au revoir.
Et 21 juillet 2017. Un grand voilier, c'est une image extraordinaire. Un grand voilier avec ses voiles, c'est une invitation à la liberté, une invitation au départ. On a envie de ferler un hunier, de s'atteler à un cabestan, d'attacher une drisse, que sais-je encore. Je peux deviner que ce rêve-là, quand on est au fond d'un fauteuil roulant, ça doit être encore plus présent. Et pour nous en parler, je rejoins Michel Bédard, un collègue à nous, puisque c'est l'animateur de l'émission Les Capés à qui est à Québec et qui est aussi à bord d'un grand voilier. Bonjour.
Allô.
Ça va bien?
Très bien, toi.
Ah, moi, ça va très, très bien. Alors, l'embarquement s'est bien passé, finalement?
Au final, oui, ça a été laborieux. Je n'ai su que ce matin, vers 9h30, que je pourrais me présenter. Et lorsque je me suis présenté près du bateau, vous savez que c'est une question de marée. C'est une pente pour avoir accès
à la passerelle,
pied d'embarquement, à la passerelle. Et dépendamment des marées, ça ça donne des rampes plus ou moins abruptes. Et au moment de me présenter, j'étais au pire de la situation, de l'abrupte, si je peux dire ça,
okay.
Comme ça, de la pente. Et en fait, il y a deux voiliers accessibles et le premier a carrément refusé, étant donné l'angle de la pente. Mais le deuxième, il n'y a pas eu de problème, puisque le capitaine, si je peux dire, en fait, c'est le président, directeur général de la fondation qui gère le bateau, lui-même est en fauteuil roulant manuel, donc ses matelots, ses équipiers font ça à journée longue, le monter et le descendre dans des pentes et dans des rampes plus ou moins abruptes. Et la rampe qu'il y avait là ce matin, c'était du commun pour eux. Là. Il n'y avait aucun problème. Ils n'ont eu aucune hésitation. C'est même pas wow. Ça s'est fait là, d'emblée très, très, très facilement.
Ouais, c'est toujours bon sur un bateau d'avoir le capitaine dans son équipe. Pour situer tous nos auditeurs qui n'ont pas l'immense bonheur et privilège de vivre à Québec, là, disons-le franchement, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a plusieurs grands voiliers à quai.
Effectivement, on parle qu'il y en a une vingtaine.
Ce qui doit donner une forêt de mâts assez impressionnante à regarder.
Je dois t'avouer que j'ai pas encore eu l'occasion de faire le tour du Vieux-Port. J'ai eu le temps de visiter le Impossible Dream tout à l'heure et j'en sors à peine. Là, ça fait une trentaine de minutes que je suis débarqué du bateau.
Vous n'avez pas réussi à vous enchaîner à un mât pour partir avec eux?
Non, pas encore. J'y compte bien dans les prochaines heures.
Oui, ça fait rêver, hein?
Tout à fait, effectivement. Et le bateau que j'ai pu visiter ce matin, je dois dire qu'il est totalement accessible. En fait, il a été bâti pour être accessible. Il y a des rampes très, très normales, très faciles à monter et à descendre. Il y a des mini-élévateurs pour se rendre dans la cale, la toilette. Est accessible. Évidemment, on s'attend pas à une toilette immense.
Mm-hmm.
Et c'est pas n'importe qui pourrait embarquer dans la toilette, mais ça se fait très bien.
Ouais,
chose pour les chambres à coucher.
Oui, on va aussi s'entendre là, par totalement accessible. On vous fera quand même pas grimper dans la mâture là, pour aller carguer une voile.
En fait, apparemment, que n'importe qui est en fauteuil roulant et qui a quand même une force dans les bras qui est paraplégique, peut faire pratiquement tout sauf le cordage sur le bateau.
OK, c'est quand même très, très, très impressionnant.
Oui, tout à fait.
Et un bateau comme celui-là, est-ce que l'équipage est handicapé, outre le capitaine?
Non, en fait, oui, ils ont eu un membre qui est là, mais qui n'est pas toujours là avec eux, qui a quitté hier... je ne sais trop quel endroit, mais ils peuvent accueillir jusqu'à 20 personnes en fauteuil roulant sur le bateau en même temps.
Et la fondation qui possède ce bateau-là, c'est quelle fondation?
Le nom m'échappe, mais c'est une fondation qui fait de la recherche pour les milieux aquatiques en Floride. En fait, le bateau est basé à Miami.
OK, et, bas pavillon américain.
C'est ça. Mais il peut également faire des croisières, quelqu'un qui veut le louer pour une soirée, un party, quoi que ce soit, c'est possible de le faire, mais à Miami, par contre.
Mm-hmm.
Donc, il faut que les gens se déplacent à cet endroit-là. Le président, le directeur général me disait que c'est une première fois au Canada qu'ils ont la chance de passer ici.
Ah oui, notre chance aussi, on va se le dire.
Effectivement.
Parlez-moi de l'accès au site lui-même, c'est-à-dire au port. Il semblerait qu'il y ait des problèmes.
En fait, il y a, oui, effectivement, il y a des problèmes. Ça a changé, en fait, à la fin de la semaine dernière, vendredi, l'endroit qui était prévu pour permettre aux gens de débarquer en transport adapté était à peine à quelques mètres des bateaux qui permettaient aux gens de se rendre facilement. Mais là, ils nous les ont mis à quelque chose comme 500 mètres ou peut-être un peu plus, le débarcadère du transport adapté, qui fait que des gens qui ont peut-être une difficulté de mobilité un peu plus grande, ça leur fait peut-être une run un peu plus longue à faire. Par contre, je dois mentionner qu'il y a une toilette adaptée à la sortie du bateau.
OK.
Donc, quelqu'un qui voudrait faire la file d'attente Il n'y a aucune file d'attente pour les personnes en fauteuil roulant. C'est automatique. Tu arrives, présence, et tu es le premier à descendre.
OK. C'était ma prochaine question parce que ça doit quand même être très achalandé, le Vieux-Port de Québec, aujourd'hui.
Ben, moi, il y avait une 70 personnes peut-être quand je me suis présenté à 11 heures tantôt. Mais là, en débarquant tantôt vers midi, ça semblait plus tranquille. Mais pour ce qui est des bateaux accessibles, comme je disais tantôt, j'ai pas encore fait le tour du site qui est soit en passant, assez grand. Là. Quelqu'un qui est en fauteuil roulant manuel et qui veut faire le tour du site, ça doit d'avoir une bonne mobilité. Là.
Ou un accompagnateur disponible.
Ou un accompagnateur qui peut le pousser, oui, effectivement. Mm-hmm. C'est mon prochain point. C'est soit des bons bras, soit un accompagnateur, ou soit même les deux. Parce que des fois, on peut faire une certaine distance, on est plus fatigué, l'accompagnateur nous aide et tout. Bon, c'est quelque chose de très faisable. Là. Les pavés sont très, très bien carrossables. Il y a des toilettes, il y a de la nourriture. Donc, pour qui du Vieux-Port, c'est très bien. Ils ont même inauguré, il y a quelques semaines, un endroit qui s'appelle la Place des Canotiers, endroit où on va pouvoir avoir accès facilement aux feux d'artifice qui auront lieu demain soir à 22h, feux d'artifice qui débuteront à partir du fleuve, donc.
Mm-hmm. Et dites-moi, les grands voiliers sont à Québec pour combien de temps encore?
Encore jusqu'à dimanche matin. Il y a une cérémonie de départ qui aura lieu à partir de 8h dimanche matin, mais j'imagine que, évidemment, à la quantité de voiliers qui sont ici, que ce ne sera pas tous les voiliers qui partiront en même temps.
Non, c'est un appareillage très complexe.
Donc, c'est ça, c'est un à la fois, et ça se fait à partir de 8 heures. Je ne peux pas vous dire jusqu'à quelle heure, en quelle heure le dernier va quitter, mais donc, c'est aujourd'hui jusqu'en soirée. Les visites se terminent à 16 heures, par contre. Demain, toute l'après-midi, toute la journée, en fait. Et petit point important à mentionner, pour les gens qui sont en fauteuil roulant, que ce soit manuel ou électrique, ça se fait à partir de 14 heures, les visites des deux voiliers accessibles.
Okay.
Parce que, comme je vous disais tantôt, il y a une question de marée qui pose problème. Donc, ça se fait à partir de 14 heures.
Oui,
donc,
parce que vu de Montréal, on l'oublie tout le temps, il y a des marées à Québec.
Effectivement. Mm-hmm. Quelqu'un qui est capable de descendre soit un escalier ou soit une rampe, malgré une mobilité réduite, lui, cette personne-là, peut y aller dès 11 heures. Mm-hmm. Mais vraiment, 14-15 heures, entre 14 et 15 heures, c'est vraiment pour les gens en fauteuil roulant.
Eh bien, Michel, c'est à peu près tout le temps dont on disposait. Je te remercie infiniment.
Ça fait plaisir.
C'était Michel Bénard qui, jusqu'à maintenant, était animateur des Capés à CKIA et qui, à compter de demain, sera passager clandestin dans un grand voilier. Alors, bon voyage.
Merci.
Au revoir.
Bye-bye.
Tatoué d'autres coups.
La voix d'Angélique Kidjo qui reprend ce classique, mais d'une manière, c'est magnifique. Et je remercie Mathieu Tessier, à qui je l'avais demandé, qui assure la mise en onde de cette émission. On a une entrevue tout à fait particulière maintenant, puisqu'on reçoit des autres créatifs, un site Internet, Lucila Guerrero en studio, qui, vous êtes autiste et votre fils est autiste également. Et en ligne, on a avec nous Mathieu Giroux, qui lui est conférencier, coach sur le thème du travail et autiste aussi. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, je suis bien. Oui.
Très bien, vous?
Ah oui, moi ça va merveilleusement bien. C'est une journée comme aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre. Là.
Mais oui.
Ça fait tellement longtemps qu'on les attend. Écoutez, vous êtes parmi les créateurs donc du site Haute Créatif. Un site qui m'a beaucoup fait réfléchir, parce que comme beaucoup de gens, puis je le disais encore tantôt en lisant des textes, on parle souvent de troubles du spectre de l'autisme, on traite souvent l'autisme comme une maladie ou comme quelque chose dont on doit guérir ou finalement qu'il faut dépasser. Or, c'est aussi une manière de vivre.
Oui. Tout à fait. Et c'est l'une des choses qui nous a inspirés pour créer le mouvement. C'est un mouvement de personnes autistes, le premier mouvement au Québec. Nous sommes déjà un organisme sans but lucratif. La première chose qu'on voulait, c'est prendre la parole justement pour nous exprimer, pour nous faire entendre, pour informer ce qu'on vit et aussi pour démystifier, pour parler de toutes les terminologies et
parce que l'autisme, c'est une condition. C'est-à-dire, moi, je suis gaucher et chauve. C'est pas le cœur de mon existence, c'est pas ma vie, mais c'est une condition. Je vis avec. Et la société s'est adaptée en me permettant de me servir de ma main gauche partout. Pourquoi est-ce qu'avec les autistes, on fait pas le même type d'effort?
Parce que ça vient de l'histoire. Avant, on pensait qu'on était malade et... Il y a plusieurs décennies qu'on pensait que nous étions une personne physiquement, mais à l'intérieur, on était une personne vide à construire. Mm-hmm. Alors, ça vient beaucoup de ce sont des traces de l'histoire, des idées fausses, mais ce n'est pas une maladie. Même le terme maladie est sorti du DSM pour l'autisme. Non?
On a des autistes, des stéréotypes en tête. Le plus célèbre, c'est Rain Man, évidemment, qui était magnifiquement joué, disons-le. C'était quand même un grand rôle et un grand film. Mais les autistes, c'est pas tous des, sont pas tous des Rain Man, ne sont pas tous des génies des mathématiques, de la musique ou de l'informatique du jour au lendemain. Il y a des cas plus ou moins sévères d'autisme et des habiletés particulières, exactement comme monsieur et madame tout le monde dans la rue. N'est-ce pas, monsieur Giroux?
Oui. Dans le fond, moi, j'adhère pas non plus au concept quand on parle de sévère ou de léger, et au même titre qu'on qualifie pas d'autres conditions neurologiques ou physiques au même titre de sévère ou léger. Et pour faire la comparaison, si on parle du trouble du spectre de la vue, on dit pas que le daltonien est plus sévère que le presbyte et moins que le myope. Il faut voir l'autisme comme une condition générale au niveau du cerveau et c'est pas une condition qui est plus grave ou moins grave chez quelqu'un, c'est surtout qu'on l'évalue en fonction de sa capacité à s'adapter à la société. Et ça n'a rien à voir avec l'autisme ou les capacités cognitives de la personne. C'est vraiment propre à chaque individu s'il est capable de s'adapter à n'importe quelle situation de façon générale, comme pour tout le monde. Là.
Mm-hmm. Sur le site Internet des autres créatifs, il y a une rubrique qui a attiré mon attention et qui nous fait tous réfléchir. C'est la rubrique lexicale. celle où vous abordez des expressions, puis vous dites, dites ceci plutôt que cela. Donnez-nous des exemples de choses qu'on dit à propos des autistes et qui finalement mériteraient d'être réformées.
Ah, ben, la première et avant tout, il y a sûrement le nom médical de trouble du spectre de l'autisme. Souvent, on l'associe même avec une personne. Fait qu'on n'est pas des personnes troubles, on n'est pas des personnes d'un spectre quelconque dans le sens de fantôme trouble. On parle aussi de maladie, de désordre. Dans le fond, tout ce qu'on incite à utiliser comme vocabulaire est un vocabulaire parlant d'un fait plutôt que d'une condition à modifier, à améliorer, à guérir. Fait qu'on incite le monde à parler plutôt de l'individu comme autiste, comme une condition neurologique plutôt que des termes péjoratifs médicaux, bien souvent tels que trouble ou désordre.
Mm-hmm. Et dans votre site, il y a également, puis ça aussi, ça a attiré mon attention, une plateforme sur les choses, les revendications et les moyens d'action à mettre en œuvre. Parce qu'au Québec, on est depuis quelques années, je pense que ça date du premier mandat du gouvernement Charest à l'époque, particulièrement sensibilisé à l'autisme, qui est quand même une maladie qui a une... J'ai dit maladie, j'ai honte. Voilà, je m'excuse, je vous demande pardon. Qui est quand même une condition qui a une forte prévalence au sein de la population. Qu'est-ce qui fait la particularité du traitement de l'autisme au Québec et de la façon dont on l'aborde?
Et je pense qu'on l'aborde de façon globale. Et d'après moi, ça, c'est une erreur parce que nous sommes très diverses. Nous sommes uniques, chacun avec sa personnalité, sa caractéristique. On a en commun un fonctionnement de perception qui va du détail au global. Ça, c'est à la base notre fonctionnement autistique. Mais chaque personne a ses propres caractéristiques. Mais on a tendance à globaliser et à faire une intervention, la même intervention pour tous les autistes.
Qui est une intervention de réforme qui vise à adapter finalement. Un peu comme à l'époque, on tapait sur la main gauche de la personne qui écrivait avec la main gauche à l'école pour lui faire se servir de sa droite.
Ça devrait être comme ça, mais c'est pas toujours. Des fois, il y a tendance à normaliser la personne. Et ça, c'est irrespectueux, mais ça met la personne en stress, en échec, ça brise l'estime de soi. Mm-hmm. Et il y a des conséquences quand on essaye de normaliser. Non?
Mm-hmm. Finalement, c'est essayer de traiter tout le monde dans le même moule, de la même manière, alors que, et c'est peut-être pour ça qu'on parle de spectre, pour utiliser l'expression, c'est une condition qui est multiforme. Et qui atteint les gens de façon très, très, très... qui concerne les gens de façon... Vous voyez, j'essaie de corriger mon langage pendant que je vous parle. Et qui concerne les gens, donc, de façon très, très, très diverse. Donc, il faudrait une approche personnalisée pour chacun.
Oui, tout à fait. Ça veut pas dire que les personnes plus autonomes, comme moi, par exemple, qu'on n'a pas besoin d'un service ou d'un soutien, ça veut dire qu'on a besoin d'un soutien personnalisé et adapté à la personne.
Mm-hmm. Je pense aux parents beaucoup qui reçoivent le diagnostic d'autisme et qui prennent ça comme une catastrophe pour leur enfant, qui se voient dans les pires scénarios. Vous-même qui êtes mère d'un autiste et qui êtes autiste vous-même, vous diriez quoi aux parents?
Je comprends beaucoup parce que quand on reçoit les diagnostics, on sort les mains vides. Il n'y a rien. Il n'y a pas de service, il n'y a rien. Mm-hmm. Alors, on est dans la confusion. Moi-même, quand je ne connaissais pas l'autisme, je pensais que c'était une maladie, que c'était la personne qui ne parle pas ou isolée. Mais les parents, il n'y a rien pour soutenir la famille, les parents d'immédiat. Je pense que ça serait important, un programme de soutien aux parents qui, en tout temps, no? qui soutiennent les parents qui viennent de recevoir un diagnostic pour connaître qu'ils n'aient pas peur de ce qui arrive et pour commencer à s'adapter et connaître l'enfant et le soutenir adéquatement.
Monsieur Giroux, la prévalence de l'autisme, quelle est-elle?
Si on regarde les dernières études, dans le fond, qui font plus l'unité au niveau nord-américain, on parle d'une personne sur 68. Dans certaines autres régions du monde, on parle d'une sur 100. Et l'étude la plus avant-gardiste qui a été faite en Corée, dans le fond, sur 45 000 personnes, parle de 2,3 autistes sur 100.
Et c'est bon, évidemment, ce sont des chiffres qui varient beaucoup. On a l'impression ici, parce qu'on fait des recensions de presse quotidiennes, que l'autisme, c'est pourtant un sujet vedette dans le monde du handicap au Québec. C'est un sujet dont on parle beaucoup. On a l'impression que les choses bougent beaucoup. Or, c'est quoi? C'est plus la sphère sociale? Les approches de l'autisme, elles, est-ce que ça varie? Est-ce que ça évolue?
Dans le fond, je vous dirais que la perspective par rapport à l'autisme de façon globale n'évolue pas et c'est un des groupes les plus discriminés parmi la population. Si on regarde les statistiques, sinon, de façon globale, je vous dirais que les intervenants ou les groupes de parole sont encore très minoritaires à inclure des autistes dans leurs discussions ou même pour travailler avec eux. On regarde le dernier plan d'action du gouvernement et il n'y a aucun autiste qui a participé à la rédaction de celui-ci. Et point de vue intervention, on prône encore la thérapie ici, l'intervention comportementale intensive, alors que s'il n'y a aucune preuve scientifique qui démontre que ça a un effet positif sur l'autisme, et même au contraire, le docteur Motron et son équipe remettent grandement en question ce type d'intervention-là. Mais sinon, je vous dirais qu'on en parle de plus en plus parce que de plus en plus de personnes ont quelqu'un dans leur entourage qui connaît un autiste ou qui voit un autiste. Donc, ça devient un peu à la mode, je vous dirais, comme on peut parler un peu plus du cancer parce que les cas sont de plus en plus nombreux et présents à nous toucher d'une façon ou d'une autre.
Oui, et puis ce type d'approche-là, uniformisée, standardisée, en bout de piste, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien aux intervenants qui ont l'impression de faire quelque chose, un peu comme le Ritalin fait énormément de bien aux professeurs.
Oui, puis surtout, j'ai l'impression que comme ça a eu des effets positifs sur certaines personnes, parce que dans le fond, l'ICI est un dérivé du domptage animal, de façon plus respectueuse. Donc, c'est possible de programmer aussi des humains et on a l'impression que ça donne des résultats, mais globalement, c'est juste transformer l'humain en une chose qui va réagir de façon programmée. Et tout comme le chien de Pavlov, là, on devrait avoir beaucoup plus une vision d'aide à la personne pour justement l'aider à se développer, à comprendre l'environnement. Et c'est beaucoup plus simple qu'on le pense, l'autisme comme tel, là. Si on parle d'une définition très simple qu'on parle d'un haut créatif, c'est que dans le fond, l'autisme serait les personnes qui pensent du détail vers le général, alors que les non-autistes, c'est tout le contraire.
Je m'en voudrais de terminer cette entrevue sans qu'on ait l'occasion de le dire. Vous allez tenir un événement important à Victoriaville sous peu.
Oui, dimanche. Ça va être dimanche.
Et ça va être une rencontre.
Une rencontre d'amitié. On a décidé d'inviter toute la communauté, autistes et non-autistes, pour faire des échanges, pour passer un moment ensemble, pour discuter justement de nos idées.
À quel endroit?
C'est au parc Art Tabasca, à Victoriaville.
À Victoriaville.
Oui,
alors
c'est annoncé
dimanche,
sur notre site web et sur notre page Facebook.
Dimanche après-midi, 23 juillet.
Oui.
Écoutez, Madame Guerrero, Monsieur Giroux, il me reste à vous remercier de nous avoir accordé un peu de temps. Vous souhaitez bonne chance aussi.
Merci beaucoup parce que ce sont rares les occasions de s'exprimer publiquement.
Merci.
Merci à vous.
On a le temps encore pour une courte nouvelle. Est-ce que ça vous dit une croisière sur le Saint-Laurent si vous êtes non-voyant? Et vous êtes effectivement invité à une invitation du Centre canadien. Invité à une invitation, pas fort, le monsieur, pas fort. Vous êtes invité par le Centre canadien pour les aveugles de Longueuil, un brunch croisière sur un navire de la des croisières d'Iberville avec une dégustation de chocolat. C'est quand? C'est samedi le 29 juillet. Qu'est-ce qu'on fait pour réussir à réserver une place? Eh bien, vous vous renseignez auprès de M. Martin Morin au 450-442-2008 au plus tard demain. Et c'est là que c'est difficile, il faut le faire maintenant. Si vous voulez faire la croisière, il en coûte 70 $ et ça promet d'être mémorable. Et voilà qui conclut cette édition du 21 juillet 2017 de cette émission. Je rendrai personnellement le micro à Clotilde Seille après l'avoir volé. Et je vous invite à l'écouter dès lundi prochain. On remercie donc à la mise en onde de Mathieu Tessier et à la recherche Sylvie Rivard. Merci d'avoir été là.